C'est loin l'Indonésie. 13 000 km de Paris, 21 heures à bord du DC-8. Guirlande d'îles montagneuses aux noms évocateurs. Sumatra, gorgée de pétrole et riche en caoutchouc. Java, les 3/5 de la population à elle seule. C'est à Java que se trouve la capitale Jakarta. Bali, rêve des touristes du monde entier. Bornéo, la plus grande des îles presque désertes. La Nouvelle-Guinée pour laquelle les Indonésiens ont manqué se battre récemment contre les Hollandais. Au total, plus de 2 milliers d'îles. Mais depuis la fin de la colonisation hollandaise il y a 20 ans, un seul pays, l'Indonésie.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardeau.
Une page d'histoire arrachée au temps, mise en récit par un texte des archives et des musiques choisies. Chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Voyage aujourd'hui donc en Indonésie. Sumatra, Java, Bali, Bornéo, les célèbres, les Moluques. Cet immense archipel colonisé par les Hollandais était devenu indépendant au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la voie de l'unification avait été longue, jalonnée de conflits d'intérêts politiques, financiers ou religieux dans un pays qui rassemble la plus importante population musulmane au monde. Sous l'autorité de Soekarno, le père de la nation, puis du dictateur Suharto, le pays avait connu des décennies troublées, la mainmise de l'armée, entreprenant au milieu des années 60 de favoriser les traditions musicales locales afin de contrer les influences occidentales, aujourd'hui du gamelan à la pop Sunda via le Kronchong ou le Jaipong, l'Indonésie, un monde en soi. C'était la première fois qu'il accomplissait le voyage et depuis 4 jours qu'il marchait sous la pluie au bord de la route, sa volonté commençait à faiblir. On lui avait dit, tu verras, dans le Laku Lelono, ce sont les premiers jours qui sont les plus difficiles mais bientôt tu t'habitueras. De fait, à chaque fois qu'il croisait un bus, il hésitait à tendre le bras pour l'arrêter. En quelques heures, il retrouverait son appartement douillet de Jakarta. C'est la loi du Laku Lelono, marcher 1000 kilomètres durant, traverser à pied Java d'un bout à l'autre pour se vider la tête, se purifier l'âme, pour surmonter les coups durs de l'existence, les deuils, les ruptures amoureuses, les burn-out. Dans son cas, lui, tout s'était accumulé. Il avait posé sa démission et 4 jours plus tôt, il avait quitté Jakarta, la grouillante, ses 30 millions d'habitants, son atmosphère étouffante et polluée, cette mégalopole monstre dont le sous-sol instable s'affaissait dangereusement chaque année vers la mer. Il avait pris la direction de l'est, suivant la route littorale du nord vers Surabaya. Il s'était conformé aux règles de l'exercice, ne rien emporter avec soi, ni argent, ni téléphone portable, ni sac, ni nourriture. Faire confiance au destin pour trouver chaque nuit un toit sous lequel s'abriter. Ce jour-là, tandis qu'un orage de mousson éclatait, trempant ses vêtements maculés de boue, il avait repensé aux millions de Javanais qui l'avaient précédé sur cette route. Il avait repensé à sa femme qu'il avait quittée pour un autre, à son boulot d'agent de change qui l'essorait. Et puis il s'était souvenu de son enfance, des décennies plus tôt, sur l'île voisine de Sumatra, l'île d'or, comme l'avaient surnommé les Indiens qui s'y étaient jadis installés. Il s'était rappelé des douceurs de la vie en pays Minang, parmi les canyons, les vallées luxuriantes, les villages traditionnels et les animaux en liberté. « I am den Lappe, autrement dit, mes poulets s'enfuient, un hymne à la vie rurale des Minang, ce peuple de l'ouest de Sumatra, composé à la fin des années 50 par l'orchestre Gumarang et repris ici par la chanteuse Eli Kassim, sans doute dans les années 70. Longtemps, l'actuelle Indonésie s'était retrouvée sous le joug des Hollandais, dont les premiers navires étaient arrivés sur place à la fin du XVIe siècle, contestant peu à peu les autres puissances commerciales, portugaises, espagnoles, britanniques, chinoises ou arabes. À Batavia, la future Jakarta, ils avaient fondé le siège de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, une puissante et richissime entreprise qui, pendant deux siècles, avait pratiqué toutes sortes de commerces entre l'archipel, l'Inde et le sud-est asiatique. Esclaves, thé, poivre, camphre, épices, soie, métaux précieux. C'est à partir de ces comptoirs marchands que les Provinces Unies, devenues Pays-Bas, avaient renforcé leur emprise en Indonésie, instaurant au début du XIXe siècle leur souveraineté sur tout l'archipel au sein d'un système colonial unifié. La majorité paysanne avait réagi par des révoltes isolées avant que dans les années 1910 s'éveillent les nationalismes. Mais vaille que vaille, les Néerlandais avaient prospéré jusqu'à ce qu'en 1942, les forces japonaises ne les délogent. Le 17 août 1945, deux jours après l'annonce de la reddition nippone, avait été proclamée l'indépendance de la République d'Indonésie. À l'origine de ce geste, on trouve un homme, Soekarno, le père de la nation. Ce Javanais, fils d'instituteur, avait très tôt plongé dans la mêlée nationaliste qu'il avait structurée au sein d'un parti, brillant par ses talents d'orateur et le payant de presque 10 ans de prison. Dans l'un de ses discours fameux de juin 1945, il avait exposé en 5 principes sa vision d'un futur État indonésien. Nationalisme, internationalisme, démocratie, justice sociale, mais aussi croyance en Dieu, quelle que soit la religion. Soekarno, premier président de l'Indonésie et que son peuple appelait avec affection Bung Karno, frère, camarade Karno, comme dans cette chanson datant sans doute des années 70 par le Kelompok Kampungan.
Pejuang kemerdekaan. pergi dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Carnot était humain, mais tout homme doit mourir à un moment donné. Il était le fils de son temps. Adieu, Boung Carnot. Hommage à Soé Carnot par le Kelompok Kampongan, formé au début des années 70 sur l'île de Java. Même si pour l'heure, dans notre histoire, Soé Carnot est bel et bien vivant. Soé Carnot tente d'unifier le pays. Si depuis quelques décennies, la langue indonésienne, dérivée du malais, permettait aux plusieurs centaines d'ethnies de l'archipel de se comprendre, son usage se systématise dans l'administration, à l'école ou sur les ondes de la toute nouvelle Radio République Indonésia. Mais on ne décrète pas du jour au lendemain l'unification de 70 millions d'habitants disséminés sur un espace vaste comme l'Europe. De nombreux princes que le pouvoir colonial avait laissé régner sur leurs îles ne sont guère pressés de se rallier. Dans les années 50, de nombreuses rébellions séparatistes éclatent, comme celle d'islamistes à l'ouest de Java ou bien de chrétiens pro-hollandais dans les Moluques du Sud. Dans ce tout nouveau système parlementaire se tiennent en 1955 les premières élections libres. Plus de 40 partis politiques s'y affrontent. Des partis qui, les années suivantes, se déchirent, notamment sur la rédaction d'une future constitution. En attendant, en 1955, Soé Carnot accueille à Bandung, à l'ouest de Java, la conférence du même nom. 29 pays d'Afrique et d'Asie, dont beaucoup viennent d'acquérir leur indépendance, y dénoncent l'impérialisme, le colonialisme, clamant leur refus de devoir s'aligner sur les deux blocs, américains ou soviétiques. Soé Carnot, pourtant, se rapproche du camp socialiste. Il distille alors une rhétorique anti-occidentale, prônant un nationalisme culturel. À l'époque, en Indonésie, l'une des musiques reines, c'est le kroncong, du nom d'une sorte de ukulélé, adapté du cavaquinho, une petite guitare portugaise importée par des esclaves du Sri Lanka au XVIe siècle. Assimilé par les gens du peuple, le kroncong avait connu un formidable essor dans les faubourgs de Jakarta dans les années 1920, gagnant peu à peu toutes les couches sociales et devenant alors la musique nationale de la génération post-indépendance. Thank you.
brand door
exemple de Kronchong, ou plutôt de l'une de ses déclinaisons régionales, le Langam, avec ce Langam Schoonver van Jo, adapté d'une vieille chanson hollandaise, clamant avec nostalgie, bien que loin de toi, je ne pense qu'à toi, assailli par le chagrin, consumé par la peine, ni le jour ni la nuit ne peuvent m'apaiser. Dans un pays qui se cherche encore une unité, les autorités se méfient des influences extérieures, au premier rang desquelles le rock'n'roll naissant et les disques d'Elvis Presley qui se diffusent sur l'archipel. En 1957, la Radio Nationale bannit de ses ondes le rock et les musiques assimilées. Un puissant parti islamique interrompt des projections de films célébrant le genre. Les autorités de Jakarta interdisent le rock dans l'espace public et en 1961, Soekarno lui-même proscrit l'importation et la diffusion des musiques occidentales. Victime de cette politique, le groupe pionnier Kus Bersodora, formé à l'est de Java par 5 frères. Alors que le gouvernement vient dénoncer son interdiction, Kus Bersodara brave ce veto et reprend les Beatles. Arrêtés en 1965, ses membres passeront plusieurs années en prison, plusieurs mois en prison, ça suffit. À la place du rock, Soekarno encourage les musiciens indonésiens à faire revivre leur tradition locale. Le premier label d'État, Lokananta Records, propage alors la bonne parole en enregistrant les ensembles de gamelan. Le gamelan, c'est l'ancienne musique de cour de Java, de Sunda et de Bali, jouée par de grands ensembles de percussions, des gongs, des tambours, de métallophones mais aussi de flûtes. Le gamelan, musique ancestrale et cérémonielle, mais dont le grand public avait alors cessé de s'intéresser. Bientôt, naîtront également d'autres styles typiquement indonésiens. Exemple, le jaipongan, à l'initiative d'un certain Gugum Gumbira, qui, à cette époque justement, écoutait du rock à l'université de Bandung, où il étudiait les sciences politiques. À la suite de l'injonction présidentielle, Gugum Gumbira décide de quitter la ville, de sillonner pendant 12 ans les campagnes de l'ouest de Java, de se plonger dans l'étude des danses rurales et rituelles pratiquées lors des récoltes de riz, des mariages ou des circoncisions. S'inspirant d'un vieux style villageois vilipendé par la bonne société en raison de ses mouvements très suggestifs, il en fait le socle d'un nouveau style de danse, le jaipongan, donc, qui, malgré l'opposition de certains milieux musulmans tentant de le faire interdire pour immoralité, connaîtra un immense succès dans l'ensemble de la société, déclenchant une fièvre de la danse pratiquée lors de fêtes, de mariages, puis bientôt de spectacles. Ne sois pas jaloux des autres, brille de ta propre lumière, tu réussiras. Exemple de jaipongan, ce toka toka, interprété par Eois Komaria, une chanteuse soudanaise. Ce Carnot, ce début des années 60, tente pareillement d'apaiser les conflits et les jalousies qui tiraillent les 80 millions d'Indonésiens. L'Assemblée constituante a été incapable de se mettre d'accord sur la rédaction d'un texte butant sur la volonté des musulmans ultra-majoritaires qui soient intégrés l'application de la charia, la loi islamique. Ce Carnot avait refusé afin de préserver les minorités catholiques, protestantes ou hindouistes. Ce Carnot dissout alors la constituante et impose comme texte fondamental les Panchasila, les cinq principes fédérateurs qu'il avait lui-même énoncés en 45, démocratie, justice sociale, etc. Mais la valse des gouvernements fait craindre le pire. Pléthorique, réactionnaire et puissante, l'armée, qui s'enrichit par l'organisation de contrebande à grande échelle depuis les îles lointaines, l'armée orchestre diverses rébellions, dénonçant les politiques centralisatrices des politiciens de Jakarta, l'hégémonie de Java, la noble, la fière qui exploite les richesses des autres îles, mais aussi le péril communiste. Quant au citoyen lambda, lui pointe surtout l'influence de la minorité chinoise, trustant le marché des Becha, ces cyclopousses de Jakarta, archives 5 colonnes à la une.
Dans un autre ordre d'idées, monsieur Cheryl, vos Chinois, j'ai l'impression qu'on ne les aime pas beaucoup ici.
Comment voulez-vous que je les aime? Il y en a 3 millions ici et ils ont dans leurs mains presque tout le commerce.
Et cela vous ennuie?
Bien sûr que oui, ça nous empêche de devenir, de développer le commerce autochtone.
Les 4/5 des entreprises fondées depuis le départ des Hollandais l'ont été par des Chinois. L'Indonésien a peu de goût pour le commerce. Le gouvernement s'est attaqué cependant à la toute-puissante corporation des propriétaires de Becha ou Vélopous. 10 000 Chinois se partagent les 500 000 Becha de Jakarta, loués à la journée au prix fort aux jeunes garçons sans métier attirés par la capitale. Les discours officiels dénoncent ce scandale en utilisant en français l'expression « exploitation de l'homme par l'homme ».
Lorsque des militaires renversent les gouvernements locaux de plusieurs provinces de Sumatra, le président Soekarno instaure la loi martiale. Il suggère d'abandonner la démocratie à l'occidental pour un système plus dirigé. Le Parlement est remplacé par un conseil qui, à la manière des assemblées traditionnelles villageoises, devra privilégier la recherche du consensus plutôt que l'arithmétique des votes. En gros, Soekarno tente de gagner du temps et, limitant le pouvoir des partis, se pose en guide, en autorité suprême. Il nationalise 200 entreprises hollandaises, à commencer par la filiale locale de la compagnie pétrolière Shell. Il encadre l'activité commerciale des ressortissants chinois. Il soigne son prestige en lançant la construction d'un monument de l'indépendance, d'une grande mosquée à Jakarta, dont le plan est redessiné à coups de larges artères. Mais l'Indonésie ne se réduisant pas à sa capitale, Soekarno s'attelle également à faire reconnaître la pleine souveraineté indonésienne sur ses mers intérieures, des mers où les navires étrangers continuent en toute impunité de circuler et de pêcher.
Asal nelayan bertabah hati, tidak selamanya surut pasang. Asal nelayan bertabah hati.
France Culture, Jukebox, aujourd'hui, l'Indonésie, un archipel de musique. Illustration de l'un des innombrables styles musicaux qu'on trouve en Indonésie, l'orchestre gambus autour du oud arabe importé jadis par des colons venus du Yémen. Ici, pour ce titre intitulé Nelayan, autrement dit le pêcheur. la pêche dans un pays où l'eau occupe trois fois plus d'espace que les terres, où les mers intérieures sont omniprésentes, si structurantes que le terme de patrie se dit en indonésien tana air, autrement dit la terre et l'eau. Des mers puissantes et capricieuses, régulièrement secouées de tsunamis apocalyptiques générés par le réveil des volcans.
En Indonésie, l'éruption brutale du mont Agung, révérée à l'égal d'un dieu, a semé la mort et la désolation dans la partie nord-est de l'île de Bali, dont le nom évoque pourtant davantage le paradis que l'enfer. Au pied du volcan, cinq villages ont été rasés par les coulées de lave. Plutôt que de s'enfuir, les habitants avaient préféré rester sur place et tenter par des prières d'apaiser la colère du dieu. Aussi, les morts et les blessés se comptent-ils par milliers. Les soins sont donnés sur place avec des moyens de fortune. Le mont Agung était assoupi depuis plus d'un siècle et les prières ne semblent toujours pas apaiser le volcan.
À l'image de l'éruption du mont Agung à Bali au printemps 63, l'Indonésie est soumise à des turbulences de plus en plus fortes. Si à l'étranger, Soekarno, nommé président à vie, donne l'impression d'endosser un costume de dictateur, c'est en réalité l'armée qui contrôle la partie. Laquelle armée, très conservatrice, on l'a dit, s'inquiète de la poussée du communisme. Dans la nuit du 30 septembre 1965, des détonations retentissent à Jakarta. Six généraux de l'état-major de l'armée de terre sont enlevés par des soldats, transférés sur une base aérienne et abattus. Au petit matin, à la radio, l'officier qui serait à l'origine de l'opération annonce la mise en place d'un conseil révolutionnaire ayant déjoué un complot contre le pouvoir. Le pseudo-putsch est de courte durée. Un général, alors inconnu, mais qui semble bien avoir été mis au parfum de l'opération, en organise opportunément la répression. Ce général, c'est Suharto, qui va profiter de la manœuvre pour éjecter Soekarno du pouvoir. Suharto décrète la dissolution du Parti communiste indonésien, qu'il accuse d'être derrière la tentative de coup. S'ensuivra pendant des mois une chasse aux communistes, à leurs familles, à leurs sympathisants, mais aussi à bien d'autres hindouistes, chrétiens, musulmans, modérés ou chinois. Au total, ces massacres de 1965-1966 font entre 500 000 et 1 million de morts. Des morts auxquelles il faut ajouter des centaines de milliers d'arrestations et de déportations. Des hommes envoyés croupir à l'ombre sur des îles lointaines, transformés en bagne, comme sur l'île de Buru. La prison où vous vivez comme un oiseau, où vous dormez par terre et vos pensées sont confuses. Mon corps est dans une cage. Le matin, il vous réveille avec la trompette. N'oubliez pas votre petit déjeuner de maïs. Si vous voulez fumer, vous devez ramasser les mégots sur le sol et rouler le tabac dans du papier journal. Ami, écoute ma chanson. La vie en prison est misère. Ne laisse pas cela t'arriver. Ton corps vivant, si sans mort.
Bagaikan burung makan di antri nasinya jagung, tidur di ubin pikiran bingung, apa daya badanku terkurung, terompet pagi tandanya bau. Jangan lupa nyarap nasi jagung, ingin merokok mungutin puntung, ambil koran lalu. Thank you. jangan sampai Anda mengalami badan hidup terasa mati, apalagi penjara Tangerang. Masuk gemuk, keluar tinggal gula, karena kerjanya cara paksa. Tua muda turun bekerja. Bagaikan burung makan di antri nasinya jagung, tidur di ubin pikiran bingung, apa daya badanku terkurung, terempet pagi tandanya baru. Jangan lupa nyarap nasi jagung, ingin merokok mungutin buntu. Tua muda bekerja.
Hidup di Bui, une vieille chanson des années 50 ou 60, enregistrée ici bien plus tard, racontant donc la vie d'un prisonnier. Et ce, dans le style d'Angdout, mélange de musiques populaires indiennes et du Moyen-Orient qui avait émergé alors parmi la jeunesse musulmane des faubourgs de Jakarta. Suharto, ces années 66-68, se voit attribuer les pleins pouvoirs, instaure ce qu'on appelle l'ordre nouveau. Lui qui bientôt abandonne son uniforme de général pour des vêtements civils, épure les rangs de l'armée, il muselle les oppositions politiques ou syndicales. Les élections ne sont plus là que pour valider ses décisions. Il fait du développement économique sa priorité. Il renoue avec les États-Unis. Le pays réintègre l'ONU. Suharto favorise les investissements étrangers sur place. Les compagnies pétrolières occidentales signent de juteux contrats d'exploration. D'importantes découvertes sont faites et les chocs pétroliers de 74 et 79 remplissent les caisses de l'État. Mais face à l'explosion de la population, les importations coûtent cher. Suharto, qui vise l'autosuffisance alimentaire, impose alors la culture du riz, jusque-là essentiellement javanaise. Tout l'archipel doit s'y mettre, y compris l'Est, où l'on se nourrissait jusqu'alors de maïs, de patates douces ou de tubercules. Matin, midi et soir, le riz blanc est promu comme un signe de richesse et d'ascension sociale. Il faut en planter partout, même dans les zones qui ne s'y prêtent pas. Dans les années 60, l'Indonésie convertit en rizière 1 million d'hectares de mangroves. On impose aussi l'utilisation de semences hybrides, d'engrais chimiques ou de pesticides produits justement par les grandes entreprises aux mains des généraux et de l'entourage du dictateur. Certains habitants conservent bien cachés des semences traditionnelles, mais ils risquent gros. Le riz qui irrigue tout, y compris la chanson, comme dans la chanson suivante, Borondong Garing, du nom d'une pâtisserie sundanaise faite d'une boulette de riz gluant.
Thank you.
Sorti en 1976 par le groupe Bimbo, formé par quatre frères et sœurs, ce Borongdong Garing, du nom d'une pâtisserie sundanaise, faite de riz gluant, soufflé et recouvert de sucre, que l'on déguste avec le thé. Bimbo, dont la pop-folk doucereuse aux paroles contemplatives se mue parfois au mi-temps des années 70 en des chansons plus contestataires, critiques sociales et satiriques, comme lorsque le groupe vise les abus d'autorité commis par les épouses des dirigeants. Des épouses au premier rang desquelles Madame Soirteau, l'épouse du chef de l'État, réputée pour son avidité. Elle est surnommée Madame 10% en raison des commissions qu'elle prélève systématiquement. Madame Soirteau, donc, initie alors la construction à 10 km de Jakarta d'un pharaonique parc touristique censé représenter en miniature la variété du pays. Le projet, hors de prix, alimente les contestations étudiantes qui dénoncent aussi la corruption généralisée des dirigeants, les passe-droits des militaires. À ceci, Soirteau répond par la force. Mais en janvier 1974, une nouvelle crise éclate à l'occasion de la visite du Premier ministre japonais, qui est alors le premier investisseur et le premier bailleur du pays. Les étudiants dénoncent le pillage des ressources naturelles du bois ou du pétrole commis par les puissances étrangères, mais aussi le détournement des aides internationales, le luxe insolent des classes dirigeantes, leurs tours modernistes et les grands magasins de Jakarta. Les manifestations tournent à l'émeute et sont brutalement réprimées par l'armée. Musicalement, si le début des années 60 avait vu le bannissement du rock afin de promouvoir les styles traditionnels, le pouvoir central ces années 70 semble faire avec la pop qui attire les jeunesses urbaines. Des orchestres se forment un peu partout, chaque unité de la police par exemple engendre le sien. Ainsi celui de la brigade mobile qui en profite comme d'autres pour faire un peu de prosélytisme, comme dans la chanson suivante intitulée « Anti-ganja » dont le message est clair « Ne fume jamais d'herbe, méfie-toi, le cannabis est partout dans le monde, marijuana, narcotiques, morphine, champignons, LSD, tout ça mène au même résultat. »
Menyesal nanti.
policier, musicien du groupe de Brims pour ce anti-ganja de 1972. Dans les années 70 et 80, tandis que la pop indonésienne résonne, qu'une Mariana Dina fait l'éloge de la danse dans ce Mari Bergoyang, l'Indonésie de Suharto continue de s'enfoncer dans l'autoritarisme et le bellicisme. En décembre 75, elle envahit le Timor oriental où des indépendantistes ont fait sécession. S'en suivront 24 années d'occupation et 200 000 morts. Malgré un développement économique impressionnant porté par les revenus du pétrole qui permettent de financer le développement des infrastructures de santé, d'éducation ou des industries d'État, la gronde se diffuse toutefois contre les fortunes colossales amassées par des hommes d'affaires d'origine chinoise bénéficiant de passe-droits du pouvoir. Le clientélisme et le népotisme de Suharto qui bénéficie en premier lieu à sa famille comme à ses enfants propulsés à la tête des secteurs automobiles, des télécommunications ou de l'hôtellerie de luxe, ce qui lui attire les foudres de l'élite militaire qui jusque-là s'enrichissait à la tête de grandes entreprises. En 88, plusieurs hauts gradés osent exprimer leur mécontentement à l'égard du président. 10 ans plus tard, tandis que l'Indonésie subit de plein fouet la crise asiatique, que la monnaie a perdu 80% de sa valeur, des manifestations éclatent dans tout le pays et notamment à Jakarta. Une semaine plus tard, sous la pression populaire et celle du FMI, Suharto finit par abandonner son poste. Nous sommes le 21 mai 1998.
Malam yang panjang, muda-mudi pergi begadang, keluyuran di jalan-jalan, bergembira sepanjang malam, yang tua pun tak ketinggalan, ikut sibuk cari pasangan, biar rambut sudah bilang ngikutin zaman, jalan-jalan berkendaraan, naik motor dan mobil sedan, tua muda tak ketinggalan, pengen aksi kebut-kebutan, malam minggu malam yang riang bagi orang yang banyak uang, keluyuran cari ibu malam, bergembira sepanjang malam.
C'est sur ce Malam Minggu, les joies du samedi soir, enregistré en 1983 de l'artiste Nano S et récemment réédité par l'excellent label Acouphone que se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui. L'Indonésie, un monde en soi, une émission préparée par Lily Cornaert, Pierre Plantin et Georgi Daskalov à la documentation musicale et l'aide de Sophie Enoch à Lina. Jukebox se réécoute et se télécharge via l'application de Radio France. Privilégiez-la au site qui connaît en ce moment quelques difficultés pour le téléchargement des émissions. À lire notamment Indonésie, le chant de l'archipel, signé Elisabeth Inandia, qui est paru en 2020 aux éditions Novikata. J'en profite pour vous annoncer l'apparition il y a quelques jours de 2 livres vinyles publiés par les éditions Vagram, consacrés à l'émergence du hip-hop et du funk et adaptés de 2 émissions que nous avions jadis consacrées à l'émergence de ce genre, de ces genres, à la technique aujourd'hui aujourd'hui, c'était Élise Leu, Anna Holweck à la réalisation. Merci à toutes deux, au micro et au stylo à Maurice Chardot. À dimanche 15h pour un prochain Jukebox.
Bagi orang yang banyak petualang minggu, keluyuran cari ibu malam minggu, bergembira sepanjang malam.
Atas musik mudanya karena malam minggu. Lupa jarakun teh cari hawa.
Oh sungguh, sana cari hawa.
Sana aja, bari jeng ramut sarang karang tos cawut buhut. Oh.
Malam yang panjang, muda-mudi pergi.